With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Produit par Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. Est-ce que nous sommes concrètement prêts, toutes et tous, psychologiquement parlant, pour ce qui va nous arriver d'ici peu? Pour le fait que, selon toute probabilité, avant même qu'on soit totalement sorti de la crise sanitaire, nous allons nous retrouver projetés dans la bataille électorale qui nous mènera tout droit au scrutin présidentiel de l'an prochain? La réponse est non, nous ne sommes pas prêts. Mais a-t-on vraiment le choix? Alors, puisqu'il faudra bien s'y coller un minimum, autant commencer tout de suite à réfléchir aux enjeux qu'on s'attend ou qu'on espère y voir tenir une place de choix. Par exemple, les sujets environnementaux. Et il y a fort à parier, même si la vie est pleine de surprises, que ces derniers devraient peser au moins dans le discours. Car on l'oublierait presque, les écologistes sont sortis victorieux de plusieurs batailles électorales récentes et peuvent prétendre maintenant à incarner non plus une force d'appoint, mais une force de ralliement à gauche. Ces victoires, ce sont les européennes en 2019, mais surtout les municipales l'an dernier, où leurs candidats et candidates ont raflé de nombreuses mairies, et pas des moindres. Un an après, on a eu envie d'aller voir dans ces villes comment le pouvoir allait à ses éternels opposants. C'est Marin Lefebvre qui s'en est chargé, et qui en a tiré un double épisode dont le premier volet arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B.
Souvenez-vous, à l'été dernier, une vague verte, selon l'expression médiatique désormais consacrée, a déferlé dans les mairies à travers le pays.
La joie des écologistes hier soir aux quatre coins du pays. Voici les nouveaux visages de la vague verte qui a déferlé sur ce second tour des municipales.
C'est une vague verte, effectivement, sans précédent. Alors, il y avait eu les européennes, effectivement, où déjà les écologistes traçaient leur sillon. Mais on voit, dans le fond, qu'ils arrivent à gagner lorsqu'ils sont unis.
De nombreuses grandes villes françaises sont en quelque sorte habillées de vert, la couleur des écologistes. Lyon, Strasbourg, Besançon, Bordeaux.
À Lyon, les écologistes emportent la troisième ville de France.
Bonjour.
Emmené par un humanitaire de 47 ans, élu pour la première fois de sa vie.
C'est justement à Lyon, la ville où cet humanitaire du nom de Grégory Doucet a été élu, que je me suis rendu pour cet épisode. Et la troisième ville du pays ne fait pas exception à la règle. Depuis son élection, les journaux ont plusieurs fois fait leur chou gras sur les petites phrases de son maire. Dernière polémique en date, sa décision de mettre en place un menu unique sans viande pour faciliter le respect des protocoles sanitaires dans les cantines scolaires. Avant, il avait décrit le Tour de France comme machiste et polluant et refusait de participer à une messe traditionnelle catholique. Au-delà de ces polémiques, j'ai voulu comprendre que l'arrivée d'un maire écologiste avait changé pour la troisième ville de France, et surtout pour ses habitants et habitantes, un peu plus de 6 mois après son élection. Pour Lyon, l'arrivée de Grégory Doucet à la tête de la ville en juillet dernier signifie un changement radical d'orientation politique. Depuis 2001, la commune était dirigée par Gérard Collomb, avec une brève interruption entre 2017 et 2018, quand celui-ci a pris les rênes du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Emmanuel Macron. Les 3 mandats de Collomb ont durablement changé le visage de la ville. Le quartier de la Confluence a été aménagé et transfiguré par des architectes de renom, des vélos en libre-service ont fait leur apparition, plusieurs festivals ont été lancés. Mais l'élu a été aussi critiqué pour avoir vendu une partie des biens municipaux à des fonds privés et pour avoir indirectement fait grimper les prix de l'immobilier. Et puis, vers la fin de son dernier mandat, il a tenté de verdir la ville. Un bilan écologique qu'il a défendu lors de la passation de pouvoir, tout en exprimant quelques réserves à propos de son successeur.
Il vous appartient, à vous, Grégory Doucet, qui allez être le maire de notre ville, d'en dessiner demain les contours. Suivant vos convictions, mais en privilégiant toujours l'intérêt général des Lyonnaises et des Lyonnais. Merci à vous et je vais appeler Grégory Doucet.
Une sorte de mise en garde, donc à mot couvert, lui qui s'était allié à la droite au premier tour pour justement éviter un péril vert. Du coup, la première chose que je me suis demandé en arrivant à Lyon, c'est est-ce que l'arrivée des grands méchants verts, Grégory Doucet à l'Hôtel de Ville et à la tête de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, avait bien pu changer pour celles et ceux qui étaient écolos avant le changement d'étiquette politique. J'ai rencontré Frédéric Bienvenu, coprésident de l'association La Ville à Vélo, pour discuter bicyclette et évoquer la promesse des Verts de créer un réseau express vélo.
On s'était clairement positionné pas en faveur d'un candidat, mais en tout cas, on s'était positionné sur des programmes qui nous semblaient plus pertinents que d'autres. Voilà, les Verts ont été élus, bah, c'est très bien pour nous, c'est très bien pour le vélo. On attend qu'ils agissent maintenant, là, ça fait quelques mois qu'ils sont élus. Notre critère d'évaluation, on ne le met pas maintenant, en fait. On s'est donné un objectif pour 2026, c'est de voir des enfants qui se déplacent seuls en ville à vélo, des collégiens qui vont seuls à leur collège à vélo. Ça ne veut pas dire qu'on attend plein de kilomètres de pistes cyclables, mais on veut surtout du qualitatif, en fait.
Donc, globalement, je sais qu'il est encore un peu tôt, mais vous tirez quoi comme bilan depuis l'élection des écologistes à la métropole ?
Alors, pour le moment, on n'a encore pas vu le plan du réseau Express Vélo. On doit le voir normalement la semaine prochaine. Il doit être annoncé la semaine prochaine, donc on l'attend avec impatience. Et puis surtout, on attend le calendrier, parce que certes, le budget annoncé est élevé, mais il comprend aussi une grosse part sur les trottoirs, ce qui est tout à fait normal, puisque les trottoirs n'ont quasiment jamais été entretenus. En tout cas, il n'y avait pas de plan de suivi des trottoirs sur l'ensemble de l'agglomération. S'ils réalisent tout ce qu'ils ont promis, oui, on sera contents. Tout ne sera pas fait en 2026, on ne va pas dire le contraire, on ne va pas s'en cacher. Mais ils avaient annoncé que tout ne serait pas fait en 2026 non plus. Donc il y a une grosse question de calendrier. Et puis on attend de voir les premières réalisations effectives pour voir si ils respectent le cahier des charges qu'ils se sont fixés aussi, quoi.
Malgré la pandémie, les élus s'activent pour justement respecter leurs engagements. Lundi 15 mars, la métropole de Lyon a examiné le projet proposé par les Verts d'étendre la zone à faible émission créée par l'exécutif sortant. L'idée, c'est Gérard Françon, président de l'association L'air des Lyonnaises et des Lyonnais, qui m'en a parlé.
La ZFE, c'est une longue histoire qui est née il y a 6 ou 7 ans. Ça s'appelait avant le plan oxygène. Et dans le plan oxygène, il y avait effectivement des esquisses d'une zone à faible émission, d'une zone qui serait réservée à des véhicules peu polluants, disons, ou pas polluants du tout, bien sûr. Alors on avait le soutien des deux maires d'arrondissement du 1er et du 4e, autant l'un que l'autre. Mais après, pour les actions, pour les mesures à prendre, les investissements à faire, les changements à faire sur les plans de circulation et autres, hein, et il fallait remonter vers la mairie centrale et vers la métropole de Lyon. Et comme à l'époque, la mairie centrale et la métropole étaient les deux tenues par Gérard Collomb, puisqu'à l'époque, le maire de Lyon pouvait être président de la métropole, ce qui ne peut plus se faire dans la loi de maintenant. Quand il voulait bloquer quelque chose, il le bloquait de partout. Et autant on avait de bons échanges, on se parlait, on se rencontrait même avec ces mairies d'arrondissement. Et malgré ça, les mesures drastiques qu'il aurait fallu prendre se heurtaient au refus de se parler.
Mais l'atmosphère semble avoir radicalement changé. Pour Pierre-Alain Millet, président du groupe communiste à la métropole de Lyon et adjoint à la mairie de Vénissieux, l'une des communes de la métropole, l'élection de cette nouvelle équipe municipale...
C'est sortir d'un régime Collomb, qui était quand même un régime très centralisé, très technocratique, qui n'était pas du tout inefficace, hein, qui était un... Il faut reconnaître qu'il a mené des politiques publiques dont beaucoup... quand même, ont été massivement soutenus et ont eu des résultats qui ne sont pas du tout ridicules, hein, au contraire. Ça a plutôt été un bon maire de Lyon qui a fait des choses, mais ce qu'il ne dit jamais et ce qu'il refuse d'entendre, c'est que dans une incroyable inégalité sociale et inéquité territoriale, et moi, la première chose, c'est effectivement dans la rupture politique qui est quand même une surprise, hein, parce que personne ne s'attendait à ce résultat aussi massif, quoi, hein. Donc franchement, c'était une belle surprise. Et ce qu'on en attend d'abord, bah c'est ça, c'est de changer d'air, de l'air Collomb, et peut-être aussi de changer d'une métropole, d'aller vraiment vers une métropole des communes et des citoyens, et pas une métropole de l'attractivité mondiale, quoi. Voilà.
Oui, mais j'allais vous en parler justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme vous le savez, du coup, la zone à faible émission, qui est un projet qui a été porté par le président de la métropole précédent, si je ne me trompe pas. C'est l'une des priorités, il me semble, que Bruno Bernard a affichée, une des priorités de son mandat. Et à terme, du coup, pour résumer, les écologistes veulent interdire la circulation des voitures qui fonctionnent au diesel dans l'agglomération à l'horizon 2026. Et du coup, le but, c'est de réduire la pollution de l'air à l'échelle de la métropole. Vous êtes adjoint à la maire de Vénissieux, Michel Picard. Comment est-ce que le projet va impacter votre commune ?
C'est simple. Quand on suit l'évolution du nombre de véhicules par catégorie critère, à Vénissieux, en 2026, il y aura 38 000 véhicules, dont 29 000 interdits. si on applique la ZFE telle qu'elle est proposée par la métropole aujourd'hui. Donc, en fait, l'impact, il est gigantesque. La transformation, elle est brutale, il faut le dire. Donc, il y a un gros travail en cours pour voir ce que l'on peut faire en accompagnement. Pour une ville comme Vénissieux, dire aux milliers de familles populaires qui ont des vieux véhicules de 200 000 km, en général diesel, qu'ils n'ont plus le droit de rouler dans l'agglomération quand ils verront passer les gros SUV hybrides des 4 SUP qui vont travailler à la Part-Dieu, franchement, c'est quand même difficilement acceptable.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une écoute de la part des écologistes sur ces sujets-là, et notamment sur ce que vous me disiez, sur la peur d'exclure des groupes sociaux plus modestes ou plus précaires?
Oui, oui, là, il n'y a pas de problème. Tous le président, le vice-président concerné, et la plupart des élus écologistes avec qui je discute ont bien conscience du sujet. Après, c'est vrai que certains élus peuvent se dire « oui, c'est un problème, donc il faut le résoudre, mais je ne change rien à mon plan, quoi, de base ». Nous, on aurait tendance à dire ben, « faut voir si on est capable, et après, il faut peut-être adapter le projet à la réalité de notre capacité d'accompagnement ». Et si on ne peut pas tout accompagner, il faut peut-être accepter d'aller moins vite que prévu.
N'étant pas né à Lyon, ça a été difficile pour moi de cerner en quelques jours une aussi grande ville, d'identifier les quelques sujets sur lesquels il était pertinent de se pencher pour donner un aperçu de ce qu'une mairie et une métropole verte donnaient sur le terrain. Mais cette question, celle d'une écologie politique qui ne se fait pas aux dépens des classes plus populaires, est revenue plusieurs fois. Notamment dans le quartier de la Croix-Rousse, où un collectif d'habitants appelé les Pentes contre Bouygues se mobilise contre un projet immobilier porté par le géant des télécoms.
Le collectif des Pentes, il s'est monté il y a environ 2 ans. Quoi.
Lui, c'est Hervé. Il habite dans le quartier depuis 20 ans et fait partie du collectif.
Sur le fait que Bouygues voulait implanter un nouveau immeuble de standing à plus de 8000 euros le mètre carré, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que en fait, ça fait un certain nombre d'années en fait, qu'on constate qu'il y a des projets de ce type-là. D'ailleurs, ça a été la mairie, en fait, Gérard Collomb, qui a trouvé que ce quartier était insalubre. Il était trop écolo, alternatif, libertaire, etc. Et qui voulait en faire un petit peu un quartier comme le Vieux-Lyon, c'est-à-dire un quartier touristique développé avec une autre image. Il a voté juste un petit peu avant son départ une dizaine de projets, dont celui-ci de Bouygues.
Avec Dominique, une autre habitante que j'ai retrouvée en même temps qu'Hervé Place Colbert dans le sud du quartier, on est allé jeter un coup d'œil au projet dont le permis avait été autorisé par la précédente municipalité de droite.
Alors là, on est devant une toute petite maison qui n'a qu'un étage, qui a une façade de 4 mètres sur une petite profondeur, qui est accolée à des anciens ateliers qui ont été transformés en garages. Donc je vous propose qu'on passe autour de ces garages. Alors ils sont très chouettes. Ce sont les toits en V, tuilés, enfin la tuile mécanique, mais ils sont formidables parce qu'ils sont tagués. Et alors, ces tags sont aussi un petit peu recouverts par les photos, justement, du projet Bouygues. On voit ces 4 immeubles dont les façades ne correspondent absolument pas à ce que les bâtiments de France souhaiteraient. Mais pourtant, les bâtiments de France ont bien accordé ce projet. Alors, on voit la rue Poutot avec ses escaliers et puis 4 blocs bétonnés avec des ouvertures horizontales, alors que toutes les ouvertures à Croix-Rousse sont verticales. Là, il y a des espèces de loggias. Alors aussi, il y a des terrasses avec un peu de verdure au-dessus. Ce n'est pas ça qui va verdir les Pentes. C'est 3 pauvres petits arbres en pot. Voilà, c'est un habitat. Moi, j'aime bien l'art contemporain. J'aime bien me balader à la Confluence et voir certaines extravagances magnifiques d'architectes. Mais là, ça n'a pas sa place du tout dans les Pentes. Alors, c'est pas égoïste, hein. C'est pas se dire « nous, on est des nantis parce qu'on habite ce beau quartier, on n'en veut pas d'autres ». C'est pas ça, on en veut. On serait ravis qu'il y ait un habitat qui se développe, mais en pensant à toutes les catégories sociales et non pas que ça devienne un quartier chicos. C'est un quartier qui, historiquement, est très populaire. Et bientôt, si ça continue, toute cette population sera chassé du centre de la ville et c'est terrible.
Dans le premier arrondissement, en 75, il y avait 40% d'ouvriers.
Hervé.
Donc, ce qui était quand même beaucoup encore l'habitait. Et on peut constater qu'en 2013, il n'y en a plus que 7,6%. Hein, donc, il y a vraiment déjà eu... il y a des mouvements, en fait, qui font que quand un quartier est sympathique, eh ben, il attire, en fait, effectivement, un type de population et un type d'investisseur derrière qui, petit à petit, eh ben, modifie... voilà, c'est le principe de la gentrification. Pour relier à notre lutte par rapport à ça, c'est que nous, on souhaite effectivement que ce quartier soit vraiment écologique, qu'il soit alternatif, qu'il soit vraiment plaisant à vivre, mais on ne veut pas que ça se fasse au détriment des classes sociales les plus pauvres.
Alors, il semblerait que...
Dominique Genevois.
La municipalité actuelle insiste un petit peu pour qu'il y ait plus de logements sociaux. Peut-être que les bureaux qui devaient être vendus en rez-de-chaussée se transformer en autre chose que des bureaux. Alors, ils sont à notre écoute, parce que comme moi j'essaye d'appeler justement des responsables de l'urbanisme ou de l'habitat, aussi bien à la métropole qu'à la mairie du premier ou à la mairie centrale, à chaque fois, ils sont tout à fait au courant de notre action. Donc ils parlent de notre action entre eux, et ils nous promettent des rendez-vous. Oui, oui, on comprend, on va essayer d'organiser un rendez-vous. Voilà. Et puis depuis août, où en effet, il y a eu un rendez-vous avec des élus à la mairie du premier et quelques membres du collectif. Depuis, voilà, je sais qu'ils ont beaucoup de boulot en ce moment, mais on n'arrive pas à se retrouver. Les municipalités doivent se battre contre cet immobilier capitaliste, parce que moi, je ne crois pas que l'écologie, ça puisse être... copain avec la finance. Pour moi, et les Verts qui ont le pouvoir maintenant, il faut vraiment qu'ils le prennent à bras-le-corps. D'abord, faire confiance à tous ceux qui ont voté pour eux, qui ont cette confiance-là, qui ont envie qu'il y ait une évolution vers une société plus douce, moins cruelle pour certains. Et puis, je pense que la mairie, ils sont pas mécontents qu'il y ait des gens qui bougent aussi, qui les aident à bouger, mais ils sont face à beaucoup de responsabilités à cause du Covid aussi en ce moment. Je pense que ça arrange pas les choses, certainement, mais ça empêche pas les financiers de continuer à gagner du terrain, quoi. C'est ça, faut qu'on soit vigilant, faut qu'on épaule la mairie verte pour qu'elle continue à rester verte, quoi.
Pour les pentes de la Croix-Rousse, même si le collectif a l'impression que les choses patinent, l'avenir ne semble pas trop sombre. Du moins, si on écoute la maire écolo, nouvellement élue, du premier arrondissement de la ville, Yasmine Boiga. Seule candidate à cette municipalité, elle s'était engagée pendant sa campagne à lutter contre la gentrification. Même si elle expliquait à Rue 89 en septembre dernier que la municipalité ne disposait pas, à l'époque, des leviers juridiques et financiers nécessaires pour retirer le permis de construire que le collectif des pentes contre Bouygues conteste. Dans un autre quartier de Lyon, plus central, la question de la gentrification avait été soulevée dès mars 2020, quand Grégory Doucet, encore candidat, et Fanny Dubot, tête de liste pour la mairie du 7e arrondissement, sont venus visiter la Guillotière.
C'est marrant, vous avez marqué quoi ? Vous avez marqué harcèlement de rue, zone de deal, rodéo urbain. La raison de votre venue ici ? Vous en êtes fiers de la Guillotière ? Vous voulez plus que ce soit un quartier populaire ?
Non, on était en train de...
Les deux candidats avaient été pris à partie par un habitant qui leur reprochait de vouloir changer le visage du quartier. En résumé, d'enchasser les classes les plus populaires. Dans ce 7e arrondissement, plusieurs collectifs d'habitants et d'habitantes s'opposent sur le sujet. Et l'un d'entre eux, que je n'ai pas pu joindre pour cet épisode, la Guillotière n'est pas à vendre, dénonce des demandes de solutions répressives qui accablent de manière ciblée les habitants les plus précaires, souvent racisés. Un autre, la Guillotière en colère, s'insurge contre ce qu'il décrit comme une hausse de l'insécurité et réclame des mesures sécuritaires au nouvel exécutif. Axel, membre de ce collectif. C'est un nom d'emprunt.
C'est une question de différence entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, évidemment que c'est des populations qui sont dans la merde, pour le dire simplement, qui n'ont pas forcément un toit, qui n'ont pas forcément de quoi manger, etc. Et donc, évidemment qu'à long terme, il faut qu'il y ait des politiques qui soient mises en place pour lutter contre ces trucs-là. Mais à court terme, à très court terme, il faut aussi qu'il y ait une présence policière, malheureusement. Nous, évidemment, on réduit pas nos revendications à une réponse sécuritaire, etc. Mais malheureusement, ça passe aussi par ça. On n'est pas naïf. Évidemment que les questions de sécurité, d'ordre public, etc., c'est des thèmes qui sont trustés, qui sont monopolisés par la droite et par l'extrême droite. Ça, c'est une évidence. Mais en fait, nous, on essaye de se positionner contre ça, en disant, mais d'où c'est un thème forcément de droite, quoi. Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'es dans un quartier populaire, t'as pas le droit d'amener tes gamins tranquilles à l'école, t'as pas le droit de te promener dans la rue sans te faire emmerder. C'est assez curieux.
La sécurité, c'est ce qu'on appelle un thème régalien en France.
Vanessa Jérôme, sociologue spécialiste de l'écologie politique en France.
Et que finalement, ELV s'est penché assez tardivement sur ces questions. Je dirais il y a une dizaine d'années, en fait, maximum. Hein. Donc c'est assez récent dans l'histoire du Parti Vert qui a été créé en 1984. Donc, et ces questions de sécurité, elles viennent dans l'esprit des élus quand ils gouvernent, en fait, pour tout un tas de raisons. Quand on n'est pas aux manettes, on n'a pas vraiment à se poser la question, ou en tout cas, on se la pose en termes de vie quotidienne. C'est vrai que c'est un thème qui est compliqué, parce que, comme le dit votre interviewé, ça a été trusté par la droite, et c'est vrai qu'il y a des couples un peu antinomiques. À droite, on parle de sécurité. Chez les écologistes, on a plutôt tendance à parler de tranquillité, plutôt que de sécurité. À droite, on parle beaucoup de répression, quand chez les écologistes, on parle plutôt de prévention. Bon, donc c'est vrai qu'il y a une manière d'appréhender les faits délictueux, les crimes, etc., qui est différente à droite et à gauche, ça très clairement. Et c'est pas les Verts qui ont inventé finalement cette cassure ou cette opposition. Après, quand on gouverne, quand on est maire, on est obligé finalement de se poser toutes les questions qui se posent à la vie quotidienne et bien sûr d'y répondre.
En termes de sécurité, c'est la vision globale.
Mohamed Chi, adjoint à la sécurité à la mairie de Lyon, que j'ai joint par téléphone.
C'est-à-dire le fait de dire qu'on ne peut pas s'arrêter uniquement à la réponse à un acte de délinquance par une répression. La répression est certes nécessaire, elle est obligatoire, puisque quand cet acte de délinquance est exprimé, il faut pouvoir le réprimer. Mais en tant que personne de gauche, en tant qu'écologiste, notre approche est globale et notre volonté, c'est en tout cas de pouvoir étudier les différentes dynamiques qui mènent à la délinquance. Donc, par exemple, l'une des premières, c'est le désœuvrement. Faire en sorte d'occuper nos plus jeunes avec des activités qui sont positives, c'est-à-dire ne pas s'arrêter uniquement à l'acte de répression, c'est vraiment penser à la prévention. Mais une fois que, malheureusement, certains d'entre eux, parmi ces adolescents, passe à l'acte, il faut non seulement réprimer, mais derrière avoir aussi une approche qui nous permette de prévenir la récidive et faire sortir en tout cas ces personnes, d'une manière générale, de la vie délinquante.
Je pensais en écoutant cette réponse que sur la question de la sécurité, il y a quand même une réalité objective, c'est la loi, quoi.
Vanessa Jérôme.
C'est par rapport à ces lois qu'il faut évaluer finalement la demande des citoyens. Et on est dans un moment qui est un moment préoccupant en France en ce moment. On sent qu'il y a cette volonté de beaucoup de citoyens en ce moment de punir, alors que la position progressiste, elle est non pas de laisser faire, il ne faut pas caricaturer, mais elle est d'essayer de travailler à la fois sur la répression et sur l'aspect prévention, parce que d'une certaine manière, toujours plus de la même cause égale toujours plus du même effet. Donc si on ne travaille pas à la racine, les raisons sociales qui font qu'il y a des faits de délinquance, etc., on n'en sortira jamais. Et au bout d'un moment, en tout cas, ce n'est pas l'option que les écologistes qui sont dans le camp des progressistes suivent. Voilà. Donc oui, il y a des demandes qui ne peuvent pas, des demandes des citoyens, qui sont non pas ignorés, mais auxquels les élus ne veulent pas répondre dans le sens qui est indiqué par les citoyens en question, ça c'est clair.
Et quelques semaines après que j'ai tourné ce reportage dans la capitale des Gaules, c'est un sujet sur lequel les débats continuent. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé début mars une unité mobile de 200 policiers à Lyon, des renforts pour, selon ses mots, faire respecter l'ordre républicain. Et du côté de la mairie, eh bien, dès septembre 2020, Grégory Doucet avait déjà demandé un renfort de 200 policiers nationaux permanents pour sa ville. Et ces derniers jours, il a appelé à l'apaisement, tout en renforçant la présence policière dans les quartiers concernés. Tout juste élu et porté par cette envolée verte, le maire de Lyon est scruté par ses opposants de tous bords et se heurte, pour la première fois, aux questions épineuses, aux enjeux sécuritaires par exemple donc, qui se posent lorsqu'on dirige l'exécutif d'une grande ville. Pour d'autres communes, plus petites, c'est pas la même histoire. Et c'est ce qu'on va voir demain, dans notre prochain épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.